Alphonse Daudet, Fromangeun et Risler aîné, livre premier, chapitre 1, une noce chez Véfour. Madame Cheb, mon garçon, oh, je suis content. C'était bien la 20e fois de la journée que le brave Risler disait qu'il était content, et toujours du même air attendri et paisible, avec la même voix lente, sourde, profonde, cette voix qu'étreint l'émotion et qui n'ose pas parler trop haut de peur de se briser tout à coup dans les larmes. Pour rien au monde, Risler n'aurait voulu pleurer en ce moment. Pourriez-vous se marier, s'attendrissant en plein repas de noces? Pourtant, il en avait bien envie. Son bonheur l'étouffait, le tenait par la gorge, empêchait les mots de sortir. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de murmurer de temps en temps, avec un petit tremblement de lèvres, « Oh, je suis content, je suis content !» Il y avait de quoi l'être, en effet. Depuis le matin, le pauvre homme se croyait emporté par un de ces rêves magnifiques dont on craint de se réveiller subitement, les yeux éblouis. Mais ce rêve à lui ne semblait jamais devoir finir. Cela avait commencé à 5 heures du matin et à 10 heures du soir. 10 heures très précises à l'horloge de Véfour, cela durait encore. Que de choses dans cette journée, et comme les moindres détails lui restaient présents. Il se voyait au petit jour, arpentant sa chambre de vieux garçon, dans une joie mêlée d'impatience, la barbe déjà faite, l'habit passé, 2 paires de gants blancs en poche. Maintenant, voici les voitures de gala, et dans la première là-bas, celle qui a des chevaux blancs, des guides blanches, une doubleur de damas jaune, la parure de la mariée, s'apercevant comme un nuage. Puis l'entrée à l'église, 2 par 2, toujours le petit nuage blanc en tête, flottant, léger, éblouissant. L'orgue, le suisse, le sermon du curé, les cierges éclairant des bijoux, des toilettes de printemps, et cette poussée de monde à la sacristie, le petit nuage blanc perdu, noyé, entouré, embrassé, pendant que le marié distribue des poignées de main à tout le haut commerce parisien venu là pour lui faire honneur. Et le grand coup d'orgue de la fin, plus solennel à cause de la porte de l'église large ouverte, qui fait participer la rue entière à la cérémonie de famille, les sons passant le porche en même temps que le cortège, les exclamations du quartier, une brunisseuse en grand tablier de lustrine disant tout haut, « Le marié n'est pas beau, mais la mariée est crânement gentille. » C'est cela qui vous rend fier quand on est le marié. Ensuite, le déjeuner à la fabrique, dans un atelier orné de tentures et de fleurs, la promenade au bois, une concession faite à la belle-mère, Madame Cheb, qui, en sa qualité de petite bourgeoise parisienne, n'aurait pas cru sa fille mariée sans un tour de lac, ni une visite à la cascade. Puis la rentrée pour le dîner, pendant que les lumières s'allumaient sur le boulevard, où les gens se retournaient pour voir passer la noce, une vraie noce cossue, menée au train de ses chevaux de louage jusqu'à l'escalier de Véfour. Il en était là, de son rêve. À 7 heures, engourdi de fatigue et de bien-être, le bon Risler regardait vaguement cette immense table de 80 couverts, terminée au debout par un fer à cheval, surmonté de visages souriants et connus, où il lui semblait voir son bonheur reflété dans tous les yeux. On arrivait à la fin du dîner. La houle des conversations particulières flottait tout autour de la table. Il y avait des profils tournés l'un vers l'autre, des manches d'habits noirs derrière des corbeilles d'asclépia, une mêlerieuse d'enfants au-dessus d'une glace aux fruits, et le dessert, au niveau des visages, entourait toute la nappe de gaieté, de couleurs et de lumière. Oh oui, Risler était content. À part son frère Franz, tout ce qu'il aimait se trouvait là. D'abord en face de lui Sidonie, hier la petite Sidonie et aujourd'hui sa femme. Pour dîner, elle avait quitté son voile. Elle était sortie de son nuage. À présent, de la robe de soie toute blanche et unie, montait un joli visage d'un blanc plus mat et plus doux, et la couronne de cheveux au-dessus de l'autre couronne si correctement tressée, vous avez des révoltes de vie, des reflets, de petites plumes qui ne demandaient qu'à s'envoler. Mais les maris ne voient pas ces choses-là. Après Sidonie et Franz, ce que Rissler aimait le plus au monde, c'était Madame Georges Fromont, celle qu'il appelait Madame Schorsch, la femme de son associé, la fille du défunt Fromont, son ancien patron et son dieu. Il l'avait mise près de lui, et dans sa façon de lui parler, on sentait de la tendresse et de la déférence. C'était une toute jeune femme, à peu près du même âge que Sidonie, mais d'une beauté plus correcte, plus tranquille. Elle causait peu, dépaysée dans ce monde mêlé, s'efforçant pourtant d'y paraître aimable. De l'autre côté de Rissler se tenait Madame Cheb, la mère de la mariée, qui rayonnait, éclatait dans sa robe de satin vert luisante comme un bouclier. Depuis le matin, toutes les pensées de la bonne femme étaient aussi brillantes que cette robe de teinte emblématique. À tout moment, elle se disait à elle-même, « Ma fille épouse Fromont jeune et Rissler est né de la rue des Vieilles Audriettes. » Car, dans son esprit, ce n'était pas Rissler aîné seul que sa fille épousait, c'était toute l'enseigne de la maison, cette raison sociale fameuse dans le commerce de Paris. Et chaque fois qu'elle constatait cet événement glorieux, Madame Cheb se tenait encore plus droite, tendant la soin du bouclier à la faire craquer. Quel contraste avec l'attitude de Monsieur Cheb, placé quelques chaises plus loin. En ménage, généralement, les mêmes causes produisent des effets tout à fait différents. Ce petit homme au grand front d'utopiste, poli, bosselé, vide comme une houle de jardin, avait l'air aussi furieux que sa femme était rayonnante. Cela ne changeait pas du reste, car M. Cheb rageait tout le long de l'année. Ce soir-là, pourtant, il n'avait pas sa mine piteuse et fanée d'habitude, ni ce large paletot flottant dont les poches ressortaient gonflées par des échantillons d'huile, de vin, de truffes, de vinaigre, selon qu'il plaçait l'une ou l'autre de ses marchandises. Son habit noir, magnifique et neuf, faisait pendante à la robe verte, mais malheureusement, ses pensées étaient de la couleur de son habit. Pourquoi ne l'avait-on pas mis près de la mariée, comme c'était son droit? Pourquoi avait-on donné sa place à Fromont jeune? Et le vieux Gardinois, le grand-père des Fromont, mais qu'est-ce qu'il faisait près de Sidonie? Ah voilà, oui, tout au Fromont et rien au Cheb. Et ces gens-là s'étonnent qu'on fasse des révolutions. Heureusement que, pour épancher sa bile, l'enragé petit homme avait près de lui son ami Delebel, vieux comédien en retrait d'emploi, qu'il écoutait avec sa physionomie placide et majestueuse des grands jours. On a beau être éloigné du théâtre depuis 15 ans par la mauvaise volonté des directeurs, on trouve encore, quand il faut, des attitudes scéniques appropriées aux événements. C'est ainsi que ce soir-là, Delobel avait sa tête des jours de noces, mine demi-sérieuse, demi-souriante, condescendante aux petites gens, à la fois aisée et solennelle. On eût dit qu'il assistait, en vue de toute une salle de spectacle, à un festin de premier acte, autour de mets en carton, et il avait d'autant plus l'air de jouer un rôle, ce fantastique de Lobel, que comptant bien qu'on utiliserait son talent dans la soirée, mentalement, depuis qu'on était à table, il repassait les plus beaux morceaux de son répertoire, ce qui donnait à sa figure une expression vague, factice, détachée, Cet air faussement attentif du comédien en scène, feignant d'écouter ce qu'on lui dit, mais ne pensant tout le temps qu'à sa réplique. Chose singulière, la mariée, elle aussi, avait un peu de cette expression. Sur ce jeune et joli visage, que le bonheur animait sans l'épanouir, une préoccupation secrète apparaissait. Et par moments, comme si elle s'était parlé à elle-même, le frétillement d'un sourire passait au coin de sa lèvre. C'est avec ce petit sourire qu'elle répondait aux plaisanteries un peu gaillardes du grand-père gardinois, assis à sa droite. « Cette Sidonie, tout de même, disait le bonhomme en riant, quand je pense qu'il n'y a pas deux mois, elle parlait d'entrer dans un couvent. On les connaît leur couvent, ces fillettes. C'est comme on dit chez nous, le couvent de Saint-Joseph, quatre sabots sous le lit. » Et tout le monde autour de la table riait de confiance aux farces campagnardes de ce vieux paysan berrichon, à qui une fortune colossale tenait lieu dans la vie de cœur, d'instruction, de bonté, mais non d'esprit. Car il en avait, le finot, et plus que tous ces bourgeois ensemble. Parmi les gens très rares qui lui inspiraient quelque sympathie, cette petite chèvre, qu'il avait connue toute gamine, lui plaisait tout particulièrement. Et elle, de son côté, trop récemment riche pour ne pas vénérer la fortune, parlait à son voisin de droite avec une nuance très marquée de respect et de coquetterie. Pour celui de gauche, au contraire, Georges Fromont, l'associé de son mari, elle se montrait pleine de réserve. Leur conversation se bornait à des politesses de table, et même il y avait entre eux comme une affectation d'indifférence. Tout à coup, il se vit parmi les convives ce petit frémissement qui annonce qu'on va se lever, un bruit de soie, de chaise, le dernier mot des conversations, l'achèvement des rires et, dans ce demi-silence, Madame Scheib, devenue communicative, disait très haut à un cousin de province, en extase devant le maintien réservé et si tranquille de la nouvelle mariée, debout en ce moment au bras de M. Gardinois. Voyez-vous, cousin, cet enfant-là, personne n'a jamais pu savoir ce qu'elle pensait. Alors, tout le monde se leva et on passa dans le grand salon. Pendant que les invités du bal arrivaient en foule se mêler aux invités du dîner, que l'orchestre s'accordait et que les valseurs à l'orgnon faisaient la roue devant les toilettes blanches des petites demoiselles impatientes, le marié, intimidé par tout ce monde, s'était réfugié avec son ami Planus, Sigismond Planus, caissier de la maison Fromont depuis 30 ans, dans cette petite galerie ornée de fleurs, tapissée d'un papier de bosquet à feuillage grimpant qui fait comme un fond de verdure au salon doré de Véfour. Là, du moins, ils étaient seuls, ils pouvaient causer. Sigismond, mon vieux, je suis content. Et Sigismond aussi était content. Mais Rissler ne lui laissait pas le temps de le dire. Maintenant qu'il n'avait plus peur de pleurer devant le monde, toute la joie de son cœur débordait. Pense donc, mon ami, mais c'est si extraordinaire qu'une jeune fille comme elle ait bien voulu de moi. Car enfin, je suis pas beau. Je n'avais pas besoin que cette effrontée de ce matin me le dise, pour le savoir. Puis j'ai 42 ans. Et qui est si mignonne. Il y en avait tant d'autres qu'elle pouvait choisir, des plus jeunes, des plus huppés, sans parler de mon pauvre Franz, qu'il aimait tant. Eh bien non, c'est son vieux Rissler qu'elle a voulu. Et cela s'est fait si drôlement. Depuis longtemps, je la voyais triste, toute changée. Je pensais bien qu'il y avait quelques chagrins d'amour là-dessous. Avec la mère, nous cherchions, nous creusions la tête pour savoir ce qui se pouvait être. Et voilà qu'un matin, Madame Scheib entre dans ma chambre et me dit en pleurant. C'est vous qu'elle aime, mon pauvre ami. Et c'était moi. C'était voir qui se serait jamais douté d'une chose pareille. Et dire que dans la même année, j'ai eu ces deux grandes fortunes. Associé de la maison Fromont et marié à Sidonie. Oh! À ce moment, sur une mesure de valse tournoyante et traînante, un couple de valseurs entra en tourbillonnant dans le petit salon. C'était la mariée et l'associé de Risler, Georges Fromont. Aussi jeunes, aussi élégants l'un que l'autre, ils causaient à mi-voix, enfermant leurs paroles dans les cercles étroits de la valse. Vous mentez, disait Sidonie un peu pâle, toujours avec son petit sourire. Et l'autre, plus pâle qu'elle, répondait: Je ne mens pas. C'est mon oncle qui a voulu ce mariage. Il allait mourir. Vous étiez parti. Moi, j'ai pas osé dire non. De loin, Risler les admirait. Comme elle est jolie, comme il danse bien. Mais en l'apercevant, les valseurs se séparèrent et Sidonie vint à lui vivement. Mais comment vous voilà? Mais qu'est-ce que vous faites? On vous cherche partout. Pourquoi n'êtes-vous pas là-bas? Et tout en parlant d'un joli mouvement de femme impatiente, elle lui refaisait son nœud de cravate. Cela ravissait Risler, qui souriait à Sigismond du coin de l'œil, trop heureux de sentir dans son cou le frôlement de cette petite main gantée pour s'apercevoir qu'elle frémissait de tous ses doigts fins. Prenez-moi le bras, lui dit-elle. Et ils rentrèrent ensemble dans les salons. La longue robe à traîne blanche faisait paraître encore plus gauche l'habit noir, mal coupé, mal porté. Mais un habit ne se refait pas comme un autre cravate. Il fallait bien le prendre tel qu'il était. Pendant qu'il saluait en passant tous ces gens empressés à leur sourire, Sidonie eut un moment de fierté, de vanité satisfaite. Malheureusement, cela ne dura pas. Il y avait dans un coin du salon une jeune et jolie femme que personne n'invitait et qui regardait les danses d'un œil calme, éclairé par toute la joie de la première maternité. Dès qu'il l'aperçut, Risler alla droit à elle et obligea Sidonie à s'asseoir à son côté. Inutile de dire que c'était Madame Cherche. À quel autre aurait-il parlé avec cette tendresse respectueuse? Dans quelle autre main que la sienne aurait-il pu mettre la main de sa petite Sidonie en disant: Vous l'aimerez bien, n'est-ce pas? Vous êtes si bonne. Elle a tant besoin de vos conseils, de votre science du monde. Mais mon bon Risler, répondait Madame Georges, Sidonie et moi, nous sommes d'anciennes amies. Nous avons toute raison pour nous aimer encore. Et son regard, tranquille et franc, cherchait sans y parvenir à rencontrer celui de l'ancienne amie. Avec sa parfaite ignorance des femmes et l'habitude qu'il avait de traiter Sidonie comme une enfant, Risler continua du même ton. Prends modèle sur elle, vois-tu, petite. Il n'y en a pas deux au monde comme Madame Church. C'est tout le cœur de son pauvre père, un vrai Fromont. Sidonie, les yeux baissés, s'inclinait sans rien répondre, avec un frisson imperceptible qui courait du bout de sa bottine de satin au dernier brin d'oranger de sa couronne. Mais le brave Risler ne voyait rien. L'émotion, le bal, la musique, toutes ces fleurs, toutes ces lumières. Il était ivre, il était fou. Cette atmosphère de bonheur incomparable qui l'entourait, il croyait que tous les autres la respiraient comme lui. Il ne sentait pas les rivalités, les petites haines qui se croisaient au-dessus de tous ces fronts parés. Il ne voyait pas de l'aubel accoudée à la cheminée, là de son attitude éternelle, une main dans le gilet et le chapeau sur la hanche, pendant que les heures s'écoulaient, sans que personne ne songeât à utiliser ses talents. Il ne voyait pas Monsieur Cheb, qui se morfondait sombrement entre deux portes, plus furieux que jamais contre les Fromont. Oh, ces Fromont! Quelle place ils tenaient à cette noce! Ils étaient là, tous, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, les amis de leurs amis, on aurait dit le mariage de l'un d'eux. Et qui parlait des Rissler ou des Cheb? On ne l'avait même pas présenté, lui, le père. Et ce qui redoublait la fureur du petit homme, c'était l'attitude de Madame Cheb, souriant maternellement à tout le monde dans sa robe à reflets de scarabée. D'ailleurs, il se trouvait là, comme à presque toutes les noces, deux courants bien distincts qui se frôlaient sans se confondre. L'un des deux fit bientôt place à l'autre. C'est Fromont qui irritait tant M. Cheb et qui formait l'aristocratie du bal, le président de la Chambre de commerce, le syndic des avoués, un fameux chocolatier député au corps législatif, le vieux millionnaire gardinois. Tous se retirèrent un peu après minuit. Derrière eux, Georges Fromont et sa femme remontèrent dans leur coupé. Il ne resta plus que le côté Rissler et Cheb, et aussitôt la fête, changeant d'aspect, devint plus bruyante. L'illustre Delobel, fatigué de voir qu'on ne lui demandait rien, s'était décidé à se demander quelque chose à soi-même. Il commençait d'une voix retentissante, comme un gond le monologue de Ruy Blas. « Bon appétit, messieurs !» pendant qu'on se pressait au buffet devant les chocolats et les verres de punch. De petites toilettes économiques s'étalaient sur les banquettes, heureuses de faire enfin leur effet, et ça et là, des petits jeunes gens de boutique, dévorés de gandineries, s'amusaient à risquer un quadrille. Depuis longtemps, la mariée voulait partir. Enfin, elle disparut avec Rissler et Madame Cheb. Quant à M. Cheb, qui avait recouvré toute son importance, impossible de l'emmener. Il fallait quelqu'un pour faire les honneurs, que diantre. Et je vous réponds que le petit bonhomme s'en chargeait. Il était rouge, allumé, fringant, turbulent, presque séditieux. D'en bas, on entendait causer politique avec le maître d'hôtel de Véfour et tenir des propos d'une hardiesse. Par les rues désertes, la voiture de noces, dont le cocher alourdi tenait les brides blanches un peu lâches, roulait lourdement vers le marais. Madame Cheb parlait beaucoup, énumérant toutes les splendeurs de ce jour mémorable, s'extasiant surtout sur le dîner dont la carte banale avait été pour elle la plus haute expression du luxe. Sidonie rêvait dans l'ombre de la voiture, et Rissler, assis en face d'elle, s'il ne disait plus « Oh, je suis content !» le pensait dans lui-même de tout son cœur. Une fois, il essaya de prendre une petite main blanche qui s'appuyait contre la glace relevée, mais elle se retira bien vite, et il restait là, sans bouger, perdu dans une adoration muette. On traversa les Halles, la rue de Rambuteau pleine de voitures de maraîchers, puis vers le bout de la rue des Francs-Bourgeois, on tourna le coin des Archives pour entrer dans la rue de Braque. Là, ils s'arrêtèrent une première fois, et Madame Cheb descendit devant sa porte, trop étroite pour la splendide robe de soie verte qui s'engloutit dans l'allée avec des froissements de révolte et un murmure de tous ses volants. Quelques minutes après, un grand portail massif de la rue des Vieilles Haudriettes, portant dans son écu d'ancien hôtel, au-dessous l'armoirie à demi disparue, une enseigne en lettres bleues, papier peint, s'ouvrait à deux battants pour laisser passer la voiture de gala. Cette fois, la mariée, immobile et comme endormie, sembla se réveiller subitement, et si toutes les lumières n'avaient pas été éteintes dans les immeubles bâtiments, ateliers ou magasins alignés sur la cour, Rissler aurait pu voir un sourire de triomphe éclairer tout à coup ce joli visage énigmatique. Les roues adoucissaient leur bruit sur le sable fin d'un jardin, et bientôt s'arrêtait devant le perron d'un petit hôtel à deux étages. C'était là qu'habitait le jeune ménage des Fremont, et Risler aîné, avec sa femme, allait s'installer au-dessus d'eux. L'habitation avait grand air. Oh, ici, le commerce riche se vengeait de la rue Noire du quartier perdu. Il y avait un tapis dans l'escalier jusque chez eux, des fleurs dans leur antichambre, partout des blancheurs de marbre, des reflets de glace et de cuivre poli. Pendant que Risler promenait sa joie par toutes les pièces de l'appartement neuf, Sidonie resta seule dans sa chambre. À la lueur de la petite lampe bleue suspendue au plafond, elle jeta d'abord un coup d'œil à la glace qui la reflétait de la tête aux pieds, à tout ce luxe jeune, si nouveau pour elle. Puis au lieu de se coucher, elle ouvrit la fenêtre et resta immobile, appuyée au balcon. La nuit était claire et tiède. Elle voyait distinctement la fabrique tout entière, ses innombrables fenêtres sans persiennes, ses vitres luisantes et hautes, sa longue cheminée se perdant dans la profondeur du ciel, et plus près, ce petit jardin luxueux, adossé aux vieux murs de l'ancien hôtel. Tout autour, des toits tristes et pauvres, des rues noires, noires. Soudain, elle tressaillit. Là-bas, dans la plus sombre, dans la plus laide de toutes ces mansardes, qui se serraient, s'appuyaient les unes aux autres comme trop lourdes de misère, une fenêtre au cinquième étage s'ouvrait toute grande, pleine de nuit. Elle la reconnut tout de suite. C'était la fenêtre du palier sur laquelle habitaient ses parents. La fenêtre du carré. Oh, que de choses ce nom seul lui rappelait. Que d'heures, que de jours elle avait passé là, penchée à ce rebord humide, sans appui ni balcon, à regarder du côté de la fabrique. Encore en ce moment, elle croyait voir là-haut la mine chiffonnée de la petite Cheb, et dans l'encadrement de cette croisée de pauvres, toute sa vie d'enfance, sa triste jeunesse de fille de Paris, se déroulait devant ses yeux. Chapitre 2. Histoire de la petite Cheb. Trois ménages sur un palier. À Paris, pour les ménages pauvres, à l'étroit dans leurs appartements trop petits, le palier commun est comme une pièce de plus, un agrandissement du logis. C'est par là que l'été, un peu d'air arrive du dehors, et c'est là que les femmes causent et que les enfants jouent. Quand la petite Chep faisait trop de train à la maison, sa mère lui disait « Tiens, tu m'ennuies, va jouer sur le carré !» Et l'enfant y courait bien vite. Ce palier au dernier étage d'une ancienne maison où l'on n'avait pas aménagé l'espace formait comme un grand couloir haut de plafond, protégé du côté de l'escalier par la rampe d'en fer forgé, éclairé par une large fenêtre où l'on voyait des toits, des cours, d'autres fenêtres, et plus loin le jardin de l'usine Fremont apparaissant dans un coin vert dans l'intervalle des vieux murs gigantesques. Tout cela n'avait rien de bien gai, mais l'enfant se plaisait là beaucoup mieux que chez elle. Leur intérieur était si triste, surtout quand il pleuvait, et que Ferdinand ne sortait pas. Cerveau toujours fumant d'idées nouvelles, qui par malheur n'aboutissaient jamais, Ferdinand Cheb était un de ces bourgeois paresseux et à projet, comme il y en a tant à Paris. Sa femme, qui l'avait d'abord ébloui, s'était vite aperçue de sa nullité, et avait fini par supporter patiemment et du même air ses rêves de fortune continuelle et les déconvenues qui suivaient immédiatement. Des 80 000 francs de dot apportés par elle et gaspillés par lui dans des entreprises ridicules, il ne leur restait qu'une petite rente qui les posait encore vis-à-vis des voisins comme le cachemire de Madame Cheb, sauvée de tous les naufrages, des dentelles de noces et deux boutons en brillant, très petits, très modestes, que Sidonie suppliait parfois sa mère de lui montrer au fond du tiroir de la commode, dans un antique écrin de velours blanc, où le nom du bijoutier s'effaçait en lettres dorées, vieille de 30 ans. C'était là l'unique luxe de ce pauvre logis de rentier. Longtemps, bien longtemps, M. Cheb avait cherché une place qui lui permit de mettre quelque chose au bout de leur petite rente. Mais cette place, il ne la cherchait que dans ce qu'il appelait le commerce debout, sa santé s'opposant à toute occupation assise. Il paraît en effet qu'au premier temps de son mariage, alors qu'il était dans les grandes affaires et qu'il avait à lui un cheval et un tilbury pour les courses de la maison, le petit homme avait fait un jour une chute de voiture considérable, et cette chute dont il parlait à tout propos servait d'excuse à sa paresse. On ne restait pas 5 minutes avec M. Cheb sans qu'il vous dît d'un ton confidentiel « Oh, vous connaissez l'accident, arrivé au duc d'Orléans ?» Et il ajoutait en tapant sur son crâne déplumé « Eh bien, pareil m'est arrivé dans ma jeunesse. » Depuis cette fameuse chute, tout travail de bureau lui donnait des éblouissements et il s'était vu fatalement relégué dans le commerce debout. C'est ainsi qu'il avait été tour à tour courtier en vin, en librairie, en truffe, en horlogerie et bien d'autres choses encore. Malheureusement, il se lassait, ne trouvant jamais sa position suffisante pour un ancien commerçant à Tilbury, et petit à petit, à force de juger toute occupation au-dessous de lui, il était devenu vieux, incapable, un véritable oisif, prenant le goût de la flâne, un badaud. On a beaucoup reproché aux artistes leur bizarrerie, leurs caprices de nature, cette horreur du convenu qui les jette dans des sentiers à côté. Mais qui niera jamais toutes les fantaisies ridicules, toutes les excentricités niaises dont un bourgeois inoccupé peut arriver à combler le vide de sa vie? Monsieur Cheb se faisait certaines lois de sorties, de promenades, et tout le temps qu'on construisait le boulevard Sébastopol, il allait voir 2 fois par jour si ça avançait. Personne ne connaissait mieux que lui les magasins en renom, les spécialités. Et bien souvent, Madame Cheb, impatientée de voir aux vitres la tête niaise de son mari pendant qu'elle reprisait activement le linge de la maison, se débarrassait de lui en l'envoyant là-bas. « Tu sais bien, là-bas, au coin de la rue Chose, où l'on vend de si bonnes brioches, ça nous fera un dessert pour dîner. » Et le mari s'en allait, prenait le boulevard, flânait aux boutiques, attendait l'omnibus, passait la moitié de la journée dehors pour 2 brioches de 3 sous qu'il rapportait triomphalement en s'épongeant le front. M. Cheb adorait l'été, les dimanches, les grandes courses à pied dans la poussière de Clamart ou de Romainville, le train des fêtes, de la foule. Il était de ceux qui allaient contempler toute une semaine avant le 15 août les lampions noirs, les ifs, les échafaudages. Et sa femme ne s'en plaignait pas. Au moins, elle n'avait plus là cet éternel gêneur rôdant des journées entières autour de sa chaise avec des projets d'entreprise gigantesques, des combinaisons ratées d'avance, des retours sur le passé et la rage de ne pas gagner de l'argent. Elle non plus n'en gagnait pas, la pauvre femme, mais elle savait si bien l'épargner. Sa merveilleuse économie suppléait tellement à tout que jamais la misère, voisine de cette grande gêne, n'était parvenue à entrer dans ces 3 chambres toujours propres, à détruire les effets soigneusement reprisés et les vieux meubles cachés sous la housse. Et en face de la porte des Cheb, dont le bouton de cuivre luisait bourgeoisement sur le carré, il s'en ouvrait deux autres plus petites. Sur la première, une carte de visite fixée par quatre clous, selon l'habitude des artistes industriels, portait le nom de Rissler, dessinateur de fabrique. L'autre avait une petite phrase, plaque de cuir bouilli et cette inscription en lettres dorées, Mesdames de Lobel, oiseaux et mouches pour mode. La porte de Delobel était souvent ouverte et montrait une grande pièce carrelée où deux femmes, la mère et la fille, presque une enfant, aussi pâles, aussi fatiguées l'une que l'autre, travaillaient à un de ces mille petits métiers fantaisistes dont se compose ce qu'on appelle l'article de Paris. C'était alors la mode d'orner les chapeaux, les robes de bal, avec ces jolies bestioles de l'Amérique du Sud, aux couleurs de bijoux ou aux reflets de pierres précieuses. Les dames de Lobel avaient cette spécialité. Une maison de gros, à qui les envois arrivaient directement des Antilles, leur adressait, sans les ouvrir, de longues caisses légères, dont le couvercle en s'arrachant laissait monter une odeur fade, une poussière d'arsenic, où luisaient les mouches empilées, piquées d'avance, les oiseaux serrés les uns contre les autres, les ailes retenues par une bande de papier fin. Il fallait monter tout cela, faire trembler les mouches sur les fils de laiton, ébouriffer les plumes des colibris, les lustrer, réparer d'un fil de soie la brisure d'une patte de corail, mettre à la place des yeux éteints deux perles brillantes, rendre à l'insecte ou à l'oiseau son attitude de grâce et de vie. La mère préparait l'ouvrage sous la direction de sa fille, car Désirée, toute jeune encore, avait un goût exquis, des inventions de fées, et personne ne savait comment elle appliquait deux yeux de perles sur ses petites têtes d'oiseaux et dépouillait leurs ailes engourdies. Boiteuse depuis l'enfance, par suite d'un accident qui n'avait nuit en rien à la grâce de son visage régulier et fin, Désirée de Lobel devait à son immobilité presque forcée, à sa paresse continuelle, de sortir une certaine aristocratie de teint des mains plus blanches. Toujours coquettement coiffée, elle passait ses journées au fond d'un grand fauteuil, devant sa table encombrée de gravures de mode, d'oiseaux de toutes les couleurs, trouvant dans l'élégance capricieuse et mondaine de son métier l'oubli de sa propre détresse et comme une revanche de sa vie disgraciée. Elle songeait que toutes ses petites ailes allaient s'envoler de sa table immobile pour entreprendre de vrais voyages autour du monde parisien, étinceler dans les fêtes, sous les lustres, et rien qu'à la façon dont elle plantait ses mouches et ses oiseaux, on aurait pu deviner la tournure de ses pensées. Dans les jours d'abattement, de tristesse, les becs effilés se tendaient en avant, les ailes s'ouvraient toutes grandes, comme pour prendre un élan furieux, loin, bien loin, des logements au cinquième, des poils de fonte, des privations, de la misère. Mais autrefois, quand elle était contente, ces bestioles vous avaient un air enchanté de vivre, bien l'air crâne et mutin d'un petit caprice de mode. Heureuse ou malheureuse, dérisée, travaillait toujours avec la même ardeur. Depuis l'aube jusque bien avant dans la nuit, la table était chargée d'ouvrages. Au dernier rayon du jour, quand la cloche des fabriques sonnait tout autour dans les cours voisines, Madame de Lobel allumait la lampe et, après un repas plus que léger, on se remettait au travail. Ces deux femmes infatigables avaient un but, une idée fixe qui les empêchait de sentir le poids de vieillir forcé. C'était la gloire dramatique de l'illustre de Lobel. Depuis qu'il avait quitté les théâtres de province pour venir jouer la comédie à Paris, de Lobel attendait qu'un directeur intelligent, Ce directeur idéal et providentiel qui découvre les génies vint le chercher pour lui offrir un rôle à sa taille. Peut-être aurait-il pu, surtout au commencement, trouver un emploi médiocre dans un théâtre de troisième ordre, mais Dolobel ne voulait pas se galvauder. Il aimait mieux attendre, lutter, comme il disait. Et voici de quelle façon il entendait la lutte. Le matin, dans sa chambre, souvent même dans son lit, il repassait les rôles de son ancien répertoire, et les dames de Lobel frissonnaient en entendant résonner derrière la cloison des tirades d'Anthony ou du médecin des enfants, déclamées par une voix ronflante qui se mêlait aux mille bruits des métiers de la grande ruche parisienne. Puis, après le déjeuner, le comédien sortait jusqu'à la nuit, allait faire son boulevard, c'est-à-dire se promener à tout petit pas entre le château d'eau et la Madeleine, le cure-dent au coin de la bouche, le chapeau un peu incliné, toujours ganté, brossé, reluisant. Cette question de la tenue avait pour lui beaucoup d'importance. C'était une de ses plus grandes chances de réussite, l'appât pour le directeur, ce fameux directeur intelligent à qui l'idée ne serait jamais venue d'engager un homme râpé, mal mis. Aussi, les dames de Lobel veillaient soigneusement à ce que rien ne lui manquât. Et vous pensez, s'il en fallait des oiseaux et des mouches pour arriver à nipper un gaillard de cette carrure? Le comédien trouvait cela trop naturel. Dans sa pensée, les efforts, les privations de sa femme et de sa fille ne s'adressaient pas à lui positivement, mais à ce génie mystérieux et inconnu dont il se considérait en quelque sorte comme le dépositaire. Entre le ménage Scheib et le ménage de Lobel, il y avait une certaine analogie de position. Seulement, chez les de Lobel, c'était moins triste. Les autres sentaient leur vie de petits rentiers rivés autour d'eux, sans horizon, toujours pareil. Tandis que, dans sa famille du comédien, l'espoir et l'illusion ouvraient partout des vues superbes. Les Scheib étaient comme des gens logés dans une impasse. Les de Lobel habitaient une petite rue sale, noire, sans jour ni air, mais où devait passer prochainement un grand boulevard. Puis Madame Scheib ne croyait plus à son mari, tandis que, par la vertu de ce seul mot magique, l'art, sa voisine n'avait jamais douté du sien. Et cependant, depuis des années et des années, M. de Lobel prenait inutilement le vermouth avec des agents dramatiques, l'absinthe avec des chefs de claque, le bitère avec des vaudevillistes, des dramaturges, le fameux machin auteur de plusieurs grandes machines. Les engagements ne venaient toujours pas. Si bien que, sans jouer une fois la comédie, le pauvre homme avait glissé des jeunes premiers au grand premier rôle, puis au financier, puis au père noble, puis au ganache. Il s'y tenait. À deux ou trois reprises, on lui avait procurer le moyen de gagner sa vie en essayant de le placer comme gérant d'un cercle ou d'un café, surveillant dans de grands magasins, au phare de la Bastille, au colosse de Rhodes. Il suffisait pour cela d'avoir de bonnes manières. De Lobel n'en manquait pas, grand Dieu. Ce qui n'empêche pas qu'à toutes les propositions qu'on lui faisait, le grand homme opposait un refus héroïque. « Je n'ai pas le droit de renoncer au théâtre, » disait-il. Dans la bouche de ce pauvre diable, qui n'avait pas mis les pieds sur les planches depuis des années, c'était irrésistiblement comique. Mais on n'avait plus envie de rire quand on voyait sa femme et sa fille avaler nuit et jour de la poussière d'arsenic et qu'on les entendait répéter énergiquement en cassant leurs aiguilles sur le laiton des petits oiseaux. Non, 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 monsieur de Lobel n'a pas le droit de renoncer au théâtre. Heureux homme, à qui ses yeux à fleur de tête, toujours souriant d'un air de condescendance, son habitude de régner dans les drames avait fait pour toute la vie cette position exceptionnelle d'un roi enfant gâté et admiré. Lorsqu'il sortait de chez lui, les boutiquiers de la rue des Francs-Bourgeois, avec cette prédilection des Parisiens pour tout ce qui louche au théâtre, le saluaient respectueusement. Il était toujours si bien mis, et puis si bon, si complaisant. Quand on pense que tous les samedis soirs, lui, Ruy Blas, Antony, Raphaël des Filles de Marbre, Andrés des Pirates de la Savane, s'en allait un carton de maudits sous le bras, rapportait l'ouvrage de ses femmes dans une maison de fleurs de la rue Saint-Denis. Eh bien, même en s'acquittant d'une commission pareille, ce diantre d'homme avait tant de noblesse, de dignité naturelle, que la demoiselle chargée de vérifier le compte de l'obèle était très embarrassée pour remettre à un gentleman aussi irréprochable la petite semaine laborieusement gagnée. Dans ces soirs-là, par exemple, le comédien ne rentrait pas dîner chez lui. Ces dames étaient prévenues. Il rencontrait toujours sur le boulevard un vieux camarade, un dévénard comme lui. Il y en a tant dans ce sacré métier, à qui il payait le restaurant et le café. Puis, très fidèlement, et on lui en savait gré, il rapportait le reste de l'argent à la maison, quelquefois un bouquet à sa femme, un petit cadeau pour Désiré, rien, une bêtise. Que voulez-vous ? Ce sont là les habitudes du théâtre. On a si vite fait dans les mélodrames de jeter une poignée de louis par la fenêtre. Tiens, drôle, prends cette bourse et va dire à ta maîtresse que je l'attends. Aussi, malgré leur grand courage et quoique leur métier fût assez lucratif, les dames de l'Obel se trouvaient souvent gênées, surtout aux époques de morte saison, pour l'article de Paris. Heureusement, le bon Rissler était là, toujours prêt à obliger ses amis. Guillaume Rissler, le troisième locataire du carré, habitait avec son frère Franz, plus jeune que lui d'une quinzaine d'années. Ces deux Suisses, grands, blonds, forts, colorés, apportaient dans l'air étouffé de la sombre maison ouvrière des mines de campagne et de santé. L'aîné était dessinateur à la Fabrique Fromont et payait les mois de collège de son frère qui suivait les cours de Chaptal en attendant d'entrer à l'école centrale. En arrivant à Paris, tout embarrassé de l'installation de son petit ménage, Guillaume avait trouvé dans le voisinage des dames Cheb et de Lobel des conseils, des renseignements, une aide indispensable à ce garçon naïf, timide, un peu lourd, gêné par son accent et par son air étranger. Au bout de quelque temps de voisinage et de services mutuels, les frères Lissler faisaient partie des deux familles. Au jour de fête, leurs couverts s'étaient toujours mis dans l'un ou l'autre endroit, et c'était un grand contentement pour ces deux dépatriés de trouver en ces pauvres ménages, si modestes, si gênés qu'ils fussent, un coin de tendresse et de vie familiale. Les appointements du dessinateur, très habile dans son métier, lui permettaient de rendre service aux Delobel au moment du terme, d'arriver chez les Cheb en grand-oncle, toujours chargé de surprises, de cadeaux, si bien que la petite, dès qu'elle l'apercevait, courant était à ses poches et grimpait sur ses genoux. Le dimanche, il emmenait tout le monde au théâtre, et presque tous les soirs, il allait avec M. Cheb et Delobel dans une brasserie de la rue Blondel, où il les régalait de bière et de pastel salé. La bière et le pastel, c'était son vice. Pour lui, il n'avait pas de plus grand bonheur que d'être assis devant une chope entre ses deux amis et de les écouter causer, en ne se mêlant que par un gros rire ou un hochement de tête à leur conversation, En général, un lourd débordement de plaintes contre la société. Une timidité d'enfant, des germanismes de langage toujours conservés dans cette vie de travail absorbant, le gênait beaucoup pour exprimer ses idées. En outre, ses amis lui imposaient. Ils avaient en face de lui l'immense supériorité de l'homme qui ne fait rien sur celui qui travaille. Et Monsieur Cheb, moins généreux que de Lobel, ne se gênait pas pour le lui faire sentir. Il le prenait de très haut, Monsieur Cheb. Pour lui, un homme travaillant comme Risler, 10 heures par jour, était incapable, en sortant de là, d'exprimer une opinion intelligente. Quelquefois, le dessinateur, arrivant harassé de la fabrique, se préparait à passer la nuit pour des travaux pressés. Il fallait voir l'air scandalisé de Monsieur Cheb. Oh, c'est pas moi qu'on ferait faire un métier pareil, disait-il en se regorgeant. Et il ajoutait en regardant Risler bien en face, avec l'œil inquisiteur d'un médecin en visite. Oh, quand vous aurez une bonne attaque. Delobel n'était pas aussi féroce, mais il prenait encore de plus haut. Le cèdre ne voit pas une rose à sa base, et Delobel ne voyait pas Risler à ses pieds. Quand par hasard il daignait s'apercevoir de sa présence, le grand homme avait une certaine façon de se pencher vers lui pour l'écouter, de sourire à ses paroles comme à celles d'un enfant. Ou bien il s'amusait à l'éblouir avec des histoires d'actrices, lui donnait des leçons de tenue, des adresses de fournisseurs, ne comprenant pas qu'un homme qui gagnait tant d'argent fût toujours mis comme un piot d'école primaire. Le bon Risler, convaincu de son infériorité, essayait de se faire pardonner par une foule d'attentions, de petits soins, obligé à toutes les délicatesses, n'est-ce pas, puisque c'était lui l'éternel bienfaiteur. Entre ces trois ménages vivant sur le même carré, la petite chèvre mettait le trait d'union de ses allées et venues perpétuelles. À toute heure du jour, elle se glissait dans l'atelier des dames de Lobel, s'amusait de leur travail, regardait toutes ces bestioles, et déjà plus coquette que joueuse, si dans le voyage une mouche avait perdu une de ses ailes, un colibri son collier de duvet, elle essayait de se faire une parure de ses débris, de piquer cette note vive dans les frissons de ses cheveux. Et Désirée et sa mère riaient de la voir se hausser sur la pointe du pied jusqu'à la vieille glace ternie, avec des minauderies, des frétillements. Puis, quand elle avait assez de sa propre admiration, l'enfant, de toute la force de ses petits doigts, rouvrait la porte et gravement, la tête droite, de peur de déranger sa coiffure, allait frapper chez les Risler. Il y avait là, dans la journée, que Franz, l'écolier, penché sur ses livres de classe, faisant son devoir bien raisonnablement. Alors Sidonie entrait, ah, adieu l'étude! Il fallait tout quitter pour recevoir cette belle madame coiffée d'un colibri, censée une princesse qui viendrait lui rendre visite au collège Chaptal pour le demander en mariage au directeur. C'était vraiment singulier de voir ce grand garçon pousser trop vite, jouer avec cette fillette de 8 ans, se rapetisser à ses caprices, l'adorer en lui cédant, tellement que plus tard, lorsqu'il en devint tout à fait amoureux, personne n'aurait pu dire à quelle époque cela avait commencé. Si choyée qu'elle fût dans ses deux intérieurs, il arrivait toujours un moment où la petite chèvre se sauvait à la fenêtre du palier. C'était encore là qu'elle trouvait sa plus grande distraction, un horizon toujours ouvert, quelque chose comme une vision de l'avenir, vers laquelle elle se penchait curieusement et sans frayeur, car les enfants n'ont pas de vertige. Entre les toits d'ardoises inclinés l'un vers l'autre, le grand mur de la fabrique, les cimes des platanes du jardin, les ateliers vitrés lui apparaissaient comme une terre promise, le pays de ses rêves. Cette maison Fromont était pour elle le dernier mot de la richesse. La place qu'elle tenait dans tout ce coin du marais, enveloppée à certaines heures de sa fumée et de son train d'usine, l'enthousiasme de Risler, ses récits fabuleux sur la fortune, la bonté, l'habileté de son patron, avaient émerveillé cette curiosité d'enfant. Et ce qu'on pouvait voir des bâtiments d'habitation, les stores fins en bois découpé, le perron arrondi devant lequel se rangeaient des meubles de jardin, une grande volière de laiton blanc qui brillait au soleil, traversée de fils dorés, le coupé bleu attelé dans la cour, étaient autant d'objets pour sa constante admiration. Elle connaissait toutes les habitudes de la maison, l'heure à laquelle on sonnait la cloche, la sortie des ouvriers, les samedis de paye qui tenaient la petite lampe de caissier allumée bien avant dans la soirée, et les longues après-midi du dimanche, les ateliers fermés, la cheminée éteinte, ce grand silence qui rapprochait d'elle les jeux de Mademoiselle Claire, courant dans le jardin avec son cousin Georges. Et par Risler, elle avait des détails. « Montre-moi les fenêtres du salon, lui disait-elle, et la chambre de Claire. » Risler, enchanté de cette sympathie extraordinaire pour sa chère fabrique, expliquait de là-haut à l'enfant la disposition des bâtiments, lui indiquait les ateliers d'impression, de dorure, de fonçage, la salle de dessin où il travaillait, celle des machines à vapeur d'où montait cette immense cheminée qui noircissait tous les murs environnants de sa fumée active, et ne se doutait guère pas qu'une petite vie cachée sous un toit voisin mêlait ses pensées les plus intimes à son grand halètement de travailleuse infatigable. Un jour, enfin, Sidonie pénétra dans ce paradis entrevu. Madame Fromont, à qui Risler parlait souvent de la gentillesse et de l'intelligence de sa petite voisine, le pria de l'amener au bal d'enfants qu'elle préparait pour Noël. D'abord, M. Cheb répondit par un refus très sec. Déjà, dans ce temps-là, ces Fromont, dont Risler avait toujours le nom à la bouche, l'agaçaient et l'humiliaient par leur fortune. D'ailleurs, il s'agissait d'un bal travesti, et M. Cheb, qui ne vendait pas de papier peint, lui, n'avait pas les moyens d'habiller sa fille en sauteuse. Mais Risler insista, déclara qu'il se chargeait de tout, et, sur le champ, s'occupa de dessiner un costume. Ce fut un soir mémorable. Dans la chambre de Madame Cheb, encombrée d'étoffes, d'épingles, de menus objets de toilette, Désiré de Lobel présidait à l'affatifement de Sidonie. La fillette, grandie par son jupon court en flanelle rouge rayé de noir, se tenait devant la glace, droite, immobile, dans le rayonnement de sa parure. Elle était charmante. Le corsage à croisure de velours, lacé sur la guimpe blanche, les longues tresses admirables de cheveux châtains s'échappant d'un chapeau de paille tressé, tous les détails un peu vulgaires de son costume de Suissesse étaient rehaussés par la physionomie intelligente de l'enfant et sa grâce maniérée, à l'aise parmi les couleurs vives de cet accoutrement de théâtre. Tout le voisinage accouru poussait des cris d'admiration. Pendant qu'on allait chercher de l'obel, la petite boiteuse arrangeait les plis de la jupe, les rubans des souliers, donnait un dernier coup d'œil à son ouvrage sans quitter son aiguille, animait elle aussi, la pauvre enfant, de l'ivresse troublante de cette fête où elle n'allait pas. Le grand homme arriva, Il fit répéter à Sidonie deux ou trois belles révérences qu'il lui avait apprises, la façon de marcher, de se poser, de sourire, la bouche ouverte en rond, juste la place du petit doigt. Oh, c'était vraiment comique de voir la précision avec laquelle l'enfant manœuvrait. « Elle a du sang de comédien dans les veines !» disait le vieil acteur enthousiasmé. Et sans savoir pourquoi, ce grand dadais de Franz avait envie de pleurer. Un an encore après cette heureuse soirée, on aurait pu demander à Sidonie quelle fleur décorait les antichambres, la couleur des meubles, l'air de danse que l'on jouait au moment de son entrée au bal, tant l'impression de son plaisir avait été profonde. Elle n'oublia rien, ni les costumes qui tourbillonnaient autour d'elle, ni ses rires d'enfant, ni tous ses petits pas qui se pressaient sur les parquets glissants. Un moment, assise au bord d'un grand canapé de soie rouge, pendant qu'elle prenait sur le plateau tendu devant elle le premier sorbet de sa vie, elle songea tout à coup à l'escalier noir, au petit appartement sans air de ses parents. Et cela lui fit l'effet d'un pays lointain, quitté pour toujours. Du reste, elle fut trouvée ravissante, admirée et choyée de tous. Claire Frobon, une miniature de Cauchoise tout en dentelle, la présenta à son cousin Georges, un magnifique hussard, qui se retournait à chaque pas pour voir l'effet de sa sabretache. « Tu attends, Georges, c'est mon ami. Elle viendra jouer avec nous le dimanche. Maman l'a permis. » Et dans l'expansion naïve d'une enfante heureuse, elle embrassait la petite Cheb de tout son cœur. Pourtant, il fallut partir. Longtemps encore, dans la rue noire où la neige fondait, dans l'escalier éteint, dans la chambre endormie où l'attendait sa mère, la lumière éclatante des salons brilla devant ses yeux éblouis. « Était-ce beau? T'es-tu bien amusé ?» lui demandait tout bas Madame Cheb en défaisant une à une les agrafes du brillant costume. Et Sidonie, accablée de fatigue, s'endormait debout sans répondre, commençant un beau rêve qui devait durer toute sa jeunesse et lui coûter bien des larmes. Claire Frobon tint parole. Et Sidonie vint jouer souvent dans le beau jardin sablé et put voir de près l'estor découpé, la volière à fil d'or. Elle connut tous les coins et les recoins de l'immense fabrique, fit de grandes parties de cache-cache derrière les tables d'impression dans la solitude des après-midi de dimanche. Au jour de fête, elle avait son couvert mis à table, à la table des enfants. Tout le monde l'aimait, sans qu'elle témoignât jamais beaucoup d'affection à personne. Tant qu'elle était au milieu de ce luxe, elle se sentait tendre, heureuse, comme embellie, mais rentrée chez ses parents, quand elle voyait la fabrique à travers les vitres ternes de la fenêtre du palier, il y avait en elle un regret, une colère inexplicable. Et pourtant, Claire Frobon la traitait bien en amie. Quelquefois, on l'emmenait au bois, aux Tuileries, dans le fameux coupé bleu, ou bien à la campagne, passer toute une semaine au château du grand-père Gardinois, à Savigny-sur-Orge. Grâce au cadeau de Rissler, très fière des succès de sa petite, elle était toujours gentille, bien arrangée. Madame Cheb s'en faisait un point d'honneur, et la jolie boiteuse était là pour mettre au service de sa petite amie des trésors de coquetterie inutilisés. Monsieur Cheb, lui, toujours hostile au Frobon, voyait d'un mauvais œil cette intimité croissante. La vraie raison, c'est qu'on ne l'invitait pas. Seulement, il en donnait d'autres et dînait à sa femme. « Tu ne vois donc pas que ta fille a le cœur gros quand elle revient de là-bas, qu'elle passe des heures à rêvasser à la fenêtre. » Mais la pauvre Madame Cheb, si malheureuse depuis son mariage, en était devenue imprévoyante. Elle prétendait qu'il faut jouir du présent par crainte de l'avenir, saisir le bonheur quand il passe, puisque souvent on a dans sa vie, pour soutien et consolation, que le souvenir d'une heureuse enfance. Ah, pour une fois, il se trouva que M. Chaim eut raison.